Vous écoutez Sériland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec Patrice Giraud, auteur, producteur, acteur aussi, créateur entre autres de Lucasfilm Magazine. Mais il est avant tout l'un des meilleurs spécialistes de l'univers Star Wars. Un passionné avec qui nous allons plonger dans la série The Mandalorian à découvrir sur Disney+. Je m'appelle Eva et je viens de passer des heures dans un monde imaginaire incroyable. Alors que les différents épisodes de Star Wars me sont assez étrangers, je me suis immergée avec une certaine délectation dans les deux saisons de la série The Mandalorian avec une créature trop mignonne, bébé Yoda. Mais il faut être clair, dans la vie, il y a ceux qui connaissent par cœur chaque épisode de cette série, chaque film de la saga Star Wars. Et puis il y a les autres, ceux qui sont passés à côté de cet univers. Si je fais clairement partie de cette catégorie, notre invité, lui, est un spécialiste du monde de George Lucas, un expert, passionné et passionnant. Grâce à Patrice Giraud, nous nous sommes transportés dans ces mondes imaginaires. Il nous a raconté les coulisses des tournages, il est revenu sur son expérience de figurant sur Star Wars et il nous a révélé comment la série The Mandalorian a été créée et où se nichent les références à la saga de George Lucas.
Sériland, épisode 26.
Bonjour Patrice Giraud.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est difficile de résumer votre vie en trois mots, mais si je dis que vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'univers Star Wars, est-ce que je me trompe ?
Alors, il y a plein de spécialistes, mais il y a plein de gens qui connaissent Star Wars. Moi, ma force, c'est que c'est un peu comme un pilote de ligne. J'ai un certain nombre d'heures de vol où j'ai travaillé littéralement tous les jours avec Lucasfilm pendant 15 ans. Et puis je continue à travailler encore pour eux.
Alors à quelle occasion vous avez travaillé pour eux ?
J'ai vu Star Wars en 77, j'avais 10 ans. Ça m'a passionné. Et puis, alors, comme j'explique aux jeunes aujourd'hui qui sont fans, moi, c'est pas tant Star Wars, c'est-à-dire Star Wars et tout ce qu'a fait Lucas après. C'est-à-dire qu'il a fait Indiana Jones, il a fait le THX, les premiers jeux vidéo. Voilà. Donc, c'était, je suis devenu cinéphile grâce à lui, en fait, à partir de Star Wars. Et Star Wars, ça a été un peu comme pour toute ma génération. D'ailleurs, J.J. Abrams, à mon âge, c'est pas par hasard. Jon Favreau, à pratiquement mon âge.
Le producteur de Mandalorian.
Mais Star Wars, ça a fait effet d'école de cinéma. C'est-à-dire que c'était un film tellement complexe et fascinant qu'on s'est dit, mais comment il a fait, le gars ? Parce qu'à côté, on rentre chez nous et puis on a Saturnin le Canard et Casimir. On va au Cinoche sur un truc qui s'appelle Star Wars, qui est hallucinant. Donc, on a tous lu les making-of, les cassettes vidéo, les livres. On a découvert le storyboard. Il y a eu le sound design qui a été créé pour Star Wars, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, on est devenu cinéphile grâce à Star Wars. Et à partir de là, on a découvert vraiment la grande palette du cinéma de Scorsese à Coppola. Puis moi, je suis rentré là-dedans et je voulais faire du cinéma, je voulais être producteur, effectivement très jeune, ça me fascinait. Et puis un jour, j'ai écrit à George Lucas. Tout le monde m'a rigolé au nez, y compris mon père qui était un banquier, il m'a dit « mais ils ne te répondront jamais ». Ils m'ont répondu, voilà.
Il vous a répondu.
Ses équipes m'ont répondu, ont voulu me rencontrer. Parce que je voulais faire le magazine qui venait de lancer aux États-Unis. Je me suis dit, je vais le faire en France.
Et vous aviez quel âge à l'époque ?
C'était en 88.
Ah oui, mais ça ne me dit rien,
donc,
Patrice Giraud.
J'avais 21 ans. 21 ans.
Au culot, et ça a marché.
Au culot, mais c'est pas tendu. Ouais, en fait, je ne me mets jamais de limite. Là encore, pour un projet, j'ai créé un grand réalisateur. J'essaye. Comme ça, je sais, si je n'ai pas de réponse, pas de remords. Et d'ailleurs, ils m'ont avoué qu'ils n'ont jamais eu de telle demande du monde entier. C'est-à-dire qu'aucun fan n'a jamais écrit pour une telle demande. Même aux États-Unis, ils sont allés voir le gars qui faisait déjà le fan club Star Trek en disant « Tu veux pas faire le fan club Star Wars ?» Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une autocensure que sont les gens, mais d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Et moi, je n'ai pas ce filtre, en fait. Alors, je suis un peu... c'est sûr que si je m'étais dit à l'époque, il va falloir créer une société, avoir des employés, la problème... Je
me pose pas... peut-être pas allé.
Voilà. Je ne me pose pas toutes ces questions. J'y vais, je me dis... Je verrai les problèmes après. Voilà.
Mais vous avez bien raison. Alors, on vous doit plusieurs livres, la réalisation d'immenses expositions, comme celle de 2005, par exemple, à la Cité des Sciences. Vous avez assisté au tournage de Star Wars, vous avez rencontré George Lucas. Puis, alors, cerise sur le gâteau, vous avez été figurant sur des épisodes
oui,
de Star
acteur,
Wars.
C'est un bien grand mot qu'on m'avait présenté.
C'était pour vous provoquer un petit peu. Mais écoutez, quand même, on ne sait jamais. Hein.
Pour l'anecdote, c'est génial, parce que, à l'époque, je décrochais déjà le Graal de pouvoir faire le magazine de Lucas en France. Et un jour, la personne avec qui je travaillais chez Lucasfilm m'appelle, ce qui était assez rare parce qu'on communiquait par fax, il n'y avait pas encore de mail. Patrice, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je fais, oula, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, commence par la mauvaise. Il me fait, la mauvaise, c'est que tu vas sur le tournage de Star Wars. Ce qui était quand même une super nouvelle parce qu'à l'époque,
j'étais
juste un licencié,
bien sûr.
Comme les gars qui font des t-shirts. Je m'étais dit, ils m'enverront les photos. Voilà. Non, tu viens sur le tournage. Je lui dis, c'est quoi la bonne ? La bonne, c'est que tu vas m'envoyer tout de suite tes mensurations que je vais transmettre à l'équipe de production et on va te fabriquer un costume pour que tu sois dans le film.
C'est quand même génial.
C'était une autre époque. C'était génial.
Voilà. Ben, vous allez revenir sur cette anecdote. On voulait évoquer avec vous la série The Mandalorian, dont les deux saisons sont disponibles sur Disney+, et qui sont issues de l'univers Star Wars. Et donc, c'est une série avec ce petit personnage absolument craquant.
Attends. L'objectif devait avoir 50 ans.
Certaines espèces vieillissent différemment. Peut-être peut-il vivre durant des siècles. Hélas. Nous ne le saurons jamais.
Non. Nous allons le ramener en vie.
La mission était très précise. L'objectif devait être anéanti.
Patrice Giraud, quand vous découvrez à l'écran ce petit bébé Yoda, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur de fan?
Déjà, c'était une vraie surprise parce qu'ils ont gardé ça d'une manière secrète. Total. Donc,
personne
bravo,
ne savait
bravo
qu'il y aurait cette
époque.
Petite créature.
Ouais, ouais. Donc, c'était balèze. Et puis, il était là vraiment au tournage. Il y avait une vraie petite marionnette qui était là. Donc, non, ils ont fait fort à l'époque des téléphones. Là, c'est une vraie prouesse d'avoir réussi. Puis, ils n'ont pas aussi craqué sous le côté bon, bah, on va faire du merchandising. Donc, on va envoyer aux industriels 6 mois avant, 8 mois avant ou 1 an avant les photos. Non, ils ont tout bloqué. Favreau a dit il n'y aura pas de merchandising. Ils ont accepté chez Disney, bravo. Et donc, on a enfin retrouvé ce qu'on avait trouvé en 77, c'est la magie de la découverte. C'est-à-dire que tout d'un coup, la magie cinématographique ou là dans la série fonctionne parce qu'en plus, on est attrapé par la nouveauté en disant « Ah !» Voilà, et effectivement, bah, c'est comme les Gremlins, comme les Mogwai, c'est un côté absolument craquant du petit Yoda qui, effectivement, tout d'un coup, embarque peut-être toute une population qui n'était pas dans Star Wars, c'est-à-dire les femmes.
Eh bien, écoutez, j'en suis d'exemple type, hein, parce que moi qui étais totalement, hermétique, mais en tout cas, je ne connaissais pas l'univers de Star Wars.
Bah, c'est un univers très masculin, hein. C'est des chevaliers, ouais. Des robots, des droïdes, des tanks. Et là, tout d'un coup, il y a un peu d'humanité, ce qu'on retrouve chez les animaux. Bon, les filles, hein, c'est ça.
En partie.
Il y a un peu de ça, oui.
Vous avez raison. Et alors, il y a un truc extraordinaire que j'ai appris en travaillant sur cet épisode de Série Land, c'est que cette créature aux expressions si humaines, c'est une marionnette. Il y a quatre personnes pour la diriger. C'est-à-dire, il y en a une pour les yeux, une pour la tête et le corps, une pour la bouche et les oreilles, une autre pour le corps et les bras. C'est absolument incroyable ce travail parce qu'on ne voit évidemment rien à l'écran.
C'était déjà la magie de Yoda, je dirais, en 80 quand il a apparu dans l'Empire contre-attaque. C'était qu'une marionnette en latex. C'était vraiment un risque énorme pour l'époque. Et là, ils ont retrouvé ça. Et ça, c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ces technologies et ces techniques sont des fois un peu perdues.
Le numérique qui est passé par là, en fait, c'est ça.
Le numérique qui est passé par là. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont perdus. Là, il y a beaucoup de micro-mécanismes et puis il faut avoir les techniciens. Puis l'art de faire ça, quoi. C'est de l'artisanat, tout ça. Et c'est pas évident de trouver les bonnes personnes dans le monde. Enfin, là, ils ont réussi. Après, il y a un peu de retouches numériques sur certains plans, mais c'est pas grave. Je dirais que c'est le meilleur des deux mondes. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, il est tangible, il est réel, quoi. Quand Lucas a fait ses nouveaux épisodes de Star Wars dans les années 2000, là, il l'a fait tous en synthèse. Quelque part, on y perd. Je pense que la technologie était peut-être pas encore là, peut-être dans 20, 30 ans. Mais là, effectivement, une vraie petite créature en latex. Je crois même pour les acteurs, c'est important. Ils l'ont, ils peuvent le prendre en main et voilà, y a un jeu qui se crée.
Yoda, vous me confirmez que le personnage de Yoda a été d'abord un personnage en latex, une marionnette, et avec le numérique, était devenu un personnage numérique aussi.
Dans l'Empire contre-attaque et le Retour Jedi, il était en latex. Puis quand il a fait les nouveaux épisodes, le premier épisode, la technologie n'était pas encore là, donc ils avaient fait un latex, mais il n'était pas du tout réussi, parce qu'ils ont essayé de le rajeunir et ça ne fonctionnait pas, et là tout le monde a été déçu. Et effectivement, quand ils sont arrivés à l'épisode 2 et 3, ils l'ont fait en synthèse, et d'ailleurs ils l'ont même rechangé dans le premier épisode où ils l'ont remplacé.
Question un tout petit peu personnelle, Patrice Giraud. Quand vous découvrez cette série The Mandalorian, comment vous avez réagi? Si vous deviez nous donner, par exemple, un argument pour qu'on la regarde, ce serait lequel?
Dès le premier épisode, j'ai retrouvé la magie qu'il y avait dans le tout premier épisode de Star Wars en 77.
C'est-à-dire que vous vous êtes revu à l'âge de 10 ans en train de découvrir le film?
Oui, parce que je me suis dit, ah, ça y est, on revient à l'essentiel, la simplicité. Et la magie, c'est-à-dire que dès le premier épisode, dès que vous voyez des tribus apparaître dans le désert, vous n'avez pas besoin de connaître. C'est une tribu étrange, bizarre. Et je me dis, et là je me place pour un enfant de 10 ans ou 8 ans, je me dis, ah c'est génial, il va rentrer dedans, ça y est. Il va retrouver la magie de Star Wars, parce que le problème d'avoir fait maintenant jusqu'à 9 épisodes, je plains les gens qui n'ont jamais vu Star Wars et qui doivent rentrer au 9e épisode. C'est proche de l'impossible. On comprend rien, on passe à côté de la moitié des choses. Donc c'est des univers quelque part très intimidants. Et là, la force de Mandalorian, c'est qu'on revient à la base et la simplicité. Parce que je trouve que la force du tout premier Star Wars, la force qu'a fait George Lucas, c'est pour ça que je dirais jamais du mal de ce grand réalisateur et scénariste, c'est que la force de Star Wars, c'est à la fois un film voilà, qu'on peut regarder au bout de 40 ans et on voit la complexité du millefeuille, mais la force, c'est que c'est ultra simple. Et donc moi, à 10 ans, j'ai tout capté. Par sa simplicité. Et c'est ça la force des grands films, c'est leur simplicité. Dès que ça devient complexe, d'ailleurs, on décroche, on s'emmerde. Voilà, Star Wars, c'était simple. Et là, Mandalorian, Favreau a compris, donc le créateur de Mandalorian, ouais. Et le producteur et scénariste, a compris les fondamentaux de Star Wars. Et notamment que c'était un western spatial.
Eh bien, on va en parler. On va en parler. Et dans ce western, il y a un Mandalorian qui trouve donc ce bébé Yoda, Mando, qui s'appelle en réalité Din Djarin. C'est un chasseur de primes hein, dont l'histoire personnelle est régulièrement rappelée par des flashbacks. Et il répète régulièrement qu'il est orphelin.
J'étais orphelin. J'ai été élevé parmi les combattants. Ils m'ont traité comme un des leurs. Quand j'ai atteint l'âge, j'ai prêté allégeance au credo. La seule trace de mon nom de famille se trouve dans les registres de Mandalore. Moff Gideon était officier de l'ISB pendant la purge. Voilà pourquoi je sais que c'est lui.
Voilà pourquoi il nous connaît tous.
Il dit qu'il a besoin de nous, ce qui veut dire que l'enfant est en sécurité. J'étais inquiet quand Lugnut n'a pas répondu, mais s'ils avaient capturé l'enfant, on serait déjà mort.
Alors l'enfant en question, c'est évidemment ce bébé Yoda. Patrice Giraud, c'est étonnant comme le fait d'être orphelin est récurrent dès qu'on parle de héros, de super-héros. Comment vous l'expliquez ?
C'est l'identification qui est importante au cinéma. Moi, ce qui a marqué en 77, c'est du fait de la maestria qu'avait réussi à faire Lucas visuellement et en termes de l'utilisation du cinéma dans son maximum. C'est que moi, j'allais voir un film, je ne savais même pas ce que j'allais voir. Hein, c'est mon grand frère qui m'emmenait, j'avais 10 ans. Je me suis assis dans la salle et pendant 2 heures, je suis parti dans l'espace. C'est-à-dire que je suis parti de la Terre et je suis devenu Luke Skywalker. Voilà. C'est l'identification au personnage. Et très souvent, la force de ces personnages, c'est qu'il faut partir sur des personnages très simples qui vont faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'à la base, vous êtes comme eux.
Avec une cassure, avec une brisure voilà. Qui pourrait les faire passer pour des gens faibles, en fait.
Ou comme nous.
Oui, ou comme
on
nous.
On a tous des points faibles. On se dit, oh, bah, il est comme moi. Puis tout d'un coup, il va affronter, bah, c'est ce que les préceptes du voyage du héros de Campbell, c'est qu'il va affronter, il va passer par le feu, et il va repasser de l'autre côté du feu. Il affronte les problématiques et il les surpasse. Voilà. C'est un schéma simple de tous les contes mythologiques qui doit guider nous en tant qu'enfants. Et effectivement, ça m'a aidé même moi à me dire, bon, bah, il faut que je dépasse des problématiques pour me surpasser et réussir, premier échelon, deuxième échelon, et voilà, la vie c'est ça. Et ça, et c'est à ça que servent les contes mythologiques, et c'est à ça que sert Star Wars.
Vous allez vraiment arriver à me convaincre de regarder autrement Star Wars, mais je trouve ça passionnant, vraiment.
Je voulais vous dire que Jon Favreau, il a eu l'idée du Mandalorian à la fin du Retour du Jedi, quand il est sorti en 83. Parce qu'il y a un truc qui nous a absolument outré, c'était la mort du personnage de Boba Fett. Parce que dans l'Empire Contre-Attaque, ce personnage apparaissait, et il était génial, énigmatique avec son casque, espèce de bras droit de Dark Vador. On disait, waouh, espèce de Clint Eastwood, c'est génial. Donc on a attendu le nouveau film en disant, ouais, alors
il va arriver,
Boba Fett.
Pas du tout.
Alors il faut savoir une chose, et d'ailleurs, j'ai découvert récemment dans un livre de quelqu'un de chez Lucasfilm, je ne l'ai jamais vu dans aucun livre officiel, c'est qu'en fait, Lucas avait prévu que dans le troisième film de l'époque, le grand méchant serait Boba Fett.
Et ça a changé.
Parce qu'il avait prévu de faire une deuxième trilogie derrière, où il y avait l'empereur, là. Et puis, sur l'Empire Contre-Attaque, il a dit à ses équipes, bon, bah, j'ai changé d'idée. Dans le prochain film, je ramène l'Empereur directement, ça sera lui le grand méchant. Donc, Boba Fett passe à l'as. Donc, effectivement, dès le premier acte, le pauvre Boba Fett disparaît d'une manière un peu bête. Et donc, on est tous sortis de la salle en disant, oh, merde, Boba Fett. Et donc, Favreau, lui, est sorti et il a écrit le Mandalorian quelque part. Il a écrit un petit draft de, voilà, comment
peut-être
Boba Fett...
Peut-être qu'on pourrait faire ça, voilà.
Peut-être que Boba Fett n'est peut-être pas mort. Voilà, c'est ce qui est en train d'arriver. En fait, quand il a vu les derniers Jedi, Favreau était un peu, comme beaucoup des gens de notre époque, un peu outré par le film et en disant « Mais où est-ce qu'ils vont avec Star Wars ?» quoi. Et donc, il a demandé un rendez-vous avec Kathleen Kennedy de Lucasfilm et lui aller lui pitcher le Mandalorian en disant « Vous ne pouvez pas continuer à ces films qui sont trop compliqués ou vous refaites les films de George, mais un peu différemment. » voilà ce que je vous propose de faire. Et là, bravo à Kathleen Kennedy, elle a dit « Ok, on va faire une série de télé ». Une des choses qu'ils n'ont pas évaluées, c'est la complexité de Star Wars et la complexité à le faire. On peut se dire, oh, c'est simple, je suis à Disney Company, je fais plein de films. Ben, c'est pas si simple que ça.
Il faut un scénario, et, par ailleurs.
Oui, et peut-être le problème qu'ils ont voulu faire, et d'ailleurs Bob Iger l'a dit, hein, et qui s'est peut-être trompé, c'est « Ah ben, je vais refaire Star Wars de 77, et puis on va faire croire aux jeunes que c'est nous qui l'avons créé. » Mais le problème, c'est que pour aller refaire la Mona Lisa, vous avez intérêt d'être aussi bon que Léonard de Vinci.
Oui, non,
mais
c'est
ça le problème.
Non, mais c'est vrai.
Et donc, ils ont fait un film qui a effectivement plein d'effets spéciaux. Mais...
Il n'y a pas l'esprit.
Il n'y a pas le truc, ce qu'on appelle « light in the bottle » aux États-Unis, le truc qui fait que c'est génial. Et donc, tout d'un coup, ils n'ont fait qu'une chose, c'est faire comparer leur film aux anciens. Donc, en fait, ils se sont tirés, une balle dans le pied. Mandalorian, l'intérêt, c'est qu'ils vont sur un autre univers en utilisant les codes de George Lucas. Et c'est ça la force de Favreau. Et quelque part, c'est ça la force de Star Wars.
Je vais vous lancer un défi, Patrice Giraud, parce que sans connaître l'univers de Star Wars, j'ai compris qu'il y avait le bien et le mal dans cette saga. Le pouvoir, la maîtrise de ce pouvoir, où se situe le Mandalorien, ce personnage qui est au cœur de la série?
Ça, c'est une des problématiques, c'est qu'un conte mythologique doit être simple. C'est pour ça que pour George Lucas, c'était le bien contre le mal, parce qu'on parle à des enfants. Et le problème des films d'aujourd'hui, il faut que ça plaise à des enfants et à des adultes.
Qui ont souvent perdu leur âme d'enfant.
Et
donc
qui ont
c'est
perdu leur âme d'enfant. D'ailleurs, quand les préquels, les épisodes 1, 2, 3 sont sortis, nous, on les a moins aimés que les originaux. Mais pour les jeunes qui sont nés avec ceux-là, ils les préfèrent.
Eh oui. Alors, Mandalorian, il est où dans l'échelle sur le bien et le mal?
Bah, quelque part, c'est un chasseur de primes, mais bon... Han Solo n'est pas loin non plus dans cette échelle-là. Hein. C'est un gentil vaurien. Alors, il n'est pas le mal. On voit qu'il a la foi, il a habité d'une humanité parce qu'il sauve une petite créature qui, au départ, il allait s'en servir comme une monnaie d'échange. À la fois, c'est le méchant au grand cœur, quoi. C'est un peu un être seul. Un être seul qui a besoin de survivre dans cette galaxie qui est en décrépitude. Mais au fond de lui, on voit bien qu'il a une âme qui est l'essentiel, c'est qu'il est habité d'une humanité. Donc, on se reconnaît tous en lui.
Alors, on se reconnaît tous en lui, vous avez raison, sauf qu'on ne voit jamais son visage, à une exception près, petite entorse, c'est dans l'épisode 8 de la première saison.
Essaye et je t'explose. C'est interdit. Aucun être vivant ne m'a vu sans mon casque depuis que j'ai prêté allégeance au credo.
Je ne suis pas un être vivant. Ceci est un Bactos prêt. Ça te guérira en quelques heures. Ton processeur central a subi de sérieux dégâts.
Tu veux dire mon cerveau?
C'était une plaisanterie. J'essayais seulement de te détendre.
Petite question, totalement anecdotique, mais quand même, Patrice Giraud. Il paraît qu'il y a un acteur sous ce costume, donc Pedro Pascal, dont on voit le visage pendant quelques secondes. Comment vous pouvez m'assurer que c'est bien lui qui fait tous les épisodes de Mandalorian? Je sais que c'est pas vous.
Je peux pas vous assurer,
je sais que c'est pas vous le producteur.
Bah, non, mais... Bon, déjà, je veux dire, c'est quand même une prouesse d'arriver à faire des chants contre chants entre un casque et une créature en latex. Et c'est ça pendant des heures et des heures. Et ça fonctionne. C'est là où c'est vraiment balèze, parce que vous voyez des casques et de l'autre côté, une petite créature en latex. Et ça marche. Donc c'est là où vraiment bravo, parce que c'était osé. C'était osé d'un point de vue de la production de Disney de faire ça. Donc ils vont un peu à l'encontre de tout ce qui se fait à Hollywood en ce moment. Et ils ont pris un risque et ils s'aperçoivent que ça marche. Alors, justement, la séquence où on retire le casque, c'est pour montrer qu'il y a Pedro Pascal.
Qui a vraiment quelqu'un
sinon,
dessous.
Sinon, je pense qu'il dans l'idée, il ne faut pas montrer du tout son visage à ce personnage.
On est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Comment vous interprétez cette volonté de masquer les visages et donc, quelque part, l'identité, en fait, du personnage?
C'est-à-dire qu'en fait, hein, vous savez, le fait de ne pas savoir, ça crée l'émerveillement. C'est-à-dire qu'on a tous même été un peu déçus. On a vu Star Wars 4, 5, 6 avec Dark Vador et à la fin du du 6, Vador retirait son casque et on a vu un vieux monsieur. Bon, parce que Lucas voulait faire une référence au magicien d'Oz, voilà. Mais quelque part, on était déçus, on s'attendait à voir un gars méchant. Donc en fait, l'émerveillement, mieux vaut faire travailler l'imaginaire
en fait.
Des
ouais.
gens que de révéler.
Ouais.
Voilà, mais je pense que quand ils l'ont, il fallait montrer Pedro Pascal. Alors pour répondre à votre question, il y a une doublure sur le tournage qui est le petit-fils de John Wayne, voilà, qui est un cascadeur. Je pense que dans beaucoup de plans, il y a quand même Pedro Pascal parce qu'il faut sortir les répliques et c'est, voilà, c'est quand même un jeu d'acteur. Après, vous savez, dans beaucoup de films, les contrechamps sur les épaules et les cheveux, très souvent, c'est une doublure, ce n'est pas l'acteur principal. Hein.
Bonne réponse, Patrice. Vous avez tout à fait raison. Il y a le producteur exécutif de la série, Dave Filoni, qui dit « Je pense honnêtement que la beauté de The Mandalorian tient dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître quoi que ce soit sur Star Wars pour l'apprécier. » C'est ce qu'on dit depuis le début de cet épisode. Et je dois dire que c'est vrai, et notamment, et je pense que vous serez d'accord avec moi, vous en avez dit un mot tout à l'heure, parce que The Mandalorian est un western moderne. On a ce chasseur de primes, en l'occurrence notre héros. On a le désert en décor, souvent, des bars qui sont similaires au saloon qu'on pourrait voir dans les westerns, les mains sur la gâchette, et puis une musique qui est fortement inspirée par celle d'Ennio Morricone.
Qu'est-ce qu'il vous faut ?
Je cherche un Mandalorien.
Ben, on reçoit pas beaucoup de visites dans ce bled. Vous pourriez le décrire ?
Un type qui me ressemblerait.
Vous parlez du Marshal ?
Votre Marshal porte une armure mandalorienne ?
Ah. Voyez par vous-même.
Qu'est-ce qui t'amène, étranger ? J'ai parcouru je ne sais combien de parsecs pour te trouver.
Eh bien, c'est fait, tu m'as trouvé. Oui, quoi ? De Razad de Spotchka.
On est vraiment dans le western moderne. Hein. On a toutes les caractéristiques.
Vous savez que Star Wars était inspiré de façon de Flash Gordon, des westerns et notamment la forteresse noire de Kurosawa. Et de quoi est inspiré Mandalorian ? De Baby Cart, qui est un manga japonais qui a donné une série de longs métrages, 6 longs métrages au début des années 70 au Japon. Et Favreau, il a vu ces longs métrages. Et donc, c'est l'histoire de ce qu'on appelle un ronin, un homme sans maître, qui est propulsé d'une caste et il part avec son bébé dans son petit landau et il part dans une aventure, il va chercher sa vengeance. Mais voilà, le personnage du Mandalorian avec le bébé Yoda, c'est vraiment inspiré de Baby Cart, voilà, qui a une résonance avec ce que faisait George Lucas et ses travaux, c'est que Favreau va s'inspirer de ce qui inspirait George Lucas pour régénérer du Star Wars, voilà. Il retourne aux substances de base.
Mais alors, c'est ça, c'était la question que je voulais vous poser. Au fond, est-ce que c'est pas ça la principale force de George Lucas et puis de ceux qui ont travaillé avec lui, comme le producteur de la série, John Favreau ? C'est-à-dire créer un monde à partir de références qui sont issues de la culture populaire, de la pop culture, on dirait aujourd'hui, qui nous touche tous. Et il le régurgite, en fait, dans une œuvre originale. Mais c'est ça, en fait, c'est parce qu'il y a des références à forcément quelque chose qui nous atteint.
Alors, la force du futur de Star Wars, c'est de comprendre que George a créé un univers cohérent, ultra ludique. C'est-à-dire que, voilà, vous montez un enfant de 6 ans face à des petits droïdes, voilà, ça marche du tonnerre de Dieu. Les épées laser, les sabres laser, bon. Alors pourquoi les films japonais ? Plus qu'autre chose, quelque part, parce que Lucas aimait aussi les films de Godard et de Truffaut. Mais je pense qu'on retrouve dans dans la culture japonaise ce code qu'ils avaient, qui est le code des samouraïs, que Lucas a essayé d'insuffler chez les Jedi et dans ces personnages qui apportent une sorte de noblesse qui les rendent très romanesques. C'est pas le tout à chacun, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs dans beaucoup de séries d'aujourd'hui, c'est qu'on filme tout comme la réalité. Et quand je regarde tout le cinéma des années 70, 80, James Bond n'était pas le personnage de tous les jours. Capitaine Kirk, c'était un personnage sur un piédestal. Indiana
Jones.
Mais vous
avez besoin de faire marcher votre propre imaginaire.
C'est pas ça, c'est que toutes ces choses-là ne nous montrent pas le quotidien parce que ce sont des contes mythologiques. Donc ils doivent nous montrer le chemin. Donc ils doivent nous montrer des exemples, des gens qui vont nous pousser à les suivre et à dire ah, je veux devenir ce Mandalorien avec son code d'honneur. Moi aussi, dans la vie, je veux faire ça. Et le problème, c'est que tout ce que je regarde aujourd'hui en série télé, hein, on nous montre la réalité, même dans les trucs de science-fiction. Ça m'intéresse pas. Je veux pas que le gars qui est à la tête du vaisseau spatial ressemble à mon boulanger. Ça me fait pas rêver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le conte mythologique, personnellement.
Et alors, vous avez raison, parce que pour rêver, George Lucas a eu un truc extraordinaire, et Favreau là aussi, c'est de créer cet univers, ce monde incroyable, ce monde imaginaire. Moi, je suis toujours... Peut-être que vous l'avez totalement intégré, mais je suis vraiment bluffée par cette créativité qui se niche, mais vraiment dans les moindres détails. Et la série en est l'exemple aussi. Je suis toujours impressionnée, comme dans Game of Thrones d'ailleurs, notamment par l'invention de langue.
Vous allez devoir garder votre ceinture attachée pendant tout le vol. Naviguer sous la vitesse lumière est devenu assez hasardeux. Que ce soit des pirates ou des seigneurs de guerre, quelqu'un finit toujours par s'en prendre à votre bourse ou à votre vaisseau. Je ne connais absolument pas cette langue. Est-ce que vous parlez le Hutt? Ohala tu abaka?
Patrice Giraud, est-ce que vous êtes encore étonné par cet imaginaire sans limite de George Lucas et de ses apôtres?
Oui, parce que Lucas avait un don pour trouver les noms. Les noms des planètes, des civilisations, des langues, des droïdes, de reconnaître les sons, le bon son. C'est lui qui validait. La force de Lucas, c'est qu'il a rendu un univers quoi. Il y a beaucoup de films où on est là, on se dit « Oh là, ça va pas, ça... » Non, les films de Lucas fonctionnent. Et la force de Favreau, c'est justement d'arriver à recréer là-dedans des choses cohérentes dans l'univers de George Lucas. Et quand ça fonctionne, c'est merveilleux. Et je sais que Favreau, d'ailleurs, est très, très... directive dans ses ordres, je sais qu'il dit retrouvez-moi le son de telle porte dans le retour du Jedi, voilà pour... Et très souvent effectivement, moi je suis fan, le mandolin ouvre la porte, je fais hop, c'est la porte du retour Jedi. Et en fait, ça fait des petits clins d'œil à tous les fans. C'est une nouvelle histoire, mais j'oublie pas les origines, et parce que la porte dans Star Wars doit faire ce bruit-là spécifiquement.
Mais c'est
incroyable. Vous voyez ce que je veux dire?
Oh, oui, bien sûr.
Et le fan, il est content. Il a compris.
Et c'est-à-dire qu'à chaque détail que vous voyez en regardant The Mandalorian, vous avez votre côté enfant, ça devient ludique. Quoi.
Exactement.
Vous repérez tous les petits détails qui renvoient à Star Wars.
Et aussi, ce qu'il fait, c'est que faut savoir que dans la communauté, et dans les médias, et la trilogie qu'a fait Lucas, les 1, 2, 3, les nouveaux, est très décriée. Voire même que si vous avez travaillé sur ces films-là, vous n'allez pas être embauché sur les nouveaux films de Star Wars. Ce qui est complètement idiot. Voilà. Mais au moins, quand on voit Mandalorian, il réunit tous les univers. Donc, vous voyez des droïdes, des prequels. Ça. Il joue avec tous les codes qu'a créé Lucas. Voilà.
Vous pourriez m'en donner un autre de détail. Alors, on vient de parler de cette porte, mais un autre détail qui vous a amusé ou votre cerveau a fait « Ah, ça, je sais ce que c'est ».
Je crois que dès le premier épisode, il va frapper à une porte et vous avez l'espèce d'appareil qui sort.
Pour identifier le...
Pour identifier, comme une sonnette quelque part de l'univers Star Wars. Bah ça c'est une référence directe à la porte de Jabba le Hutt, du palais de Jabba le Hutt dans le Retour du Jedi. Vous avez les pit droïdes qui sont sur Mos Eisley, qui on n'a jamais vu dans Mos Eisley comme ça, mais là il les a ramenés de l'épisode 1. Il est très très directif parce qu'il est lui-même fan. Il fait la même chose qu'un bon cuisinier, il prend les bons ingrédients. Non, je veux pas cette tomate, elle est un peu pourrie, je veux cette tomate verte, voilà. Comme je dis souvent d'ailleurs, le cinéma et la cuisine se rapprochent quand vous écrivez un scénario. Il faut du temps. Pas par hasard que Kubrick mettait 3, 4 ans, 5 ans à faire un scénario. C'est-à-dire que faire reposer les choses, souvent, vous permet d'avoir une autre vision. Le drame aujourd'hui à Hollywood, et même en France, c'est que vous
tout
avez...
Tout va
4...
trop vite. Hein.
Ouais. Ouais. Allez, ok, il faut le film dans un an, donc dans deux semaines, on tourne.
Alors, la série, elle est aussi marquée par beaucoup de traits d'humour qui, à mon sens, rendent le récit un peu plus léger. Est-ce que vous avez été sensible à cet humour-là? Est-ce que c'est raccord avec l'univers de George Lucas?
C'est complètement raccord avec la première trilogie des années 70. Et justement, c'est ce qui manquait un peu dans les épisodes 1, 2, 3 de Lucas. Mais George ne voulait pas faire absolument les mêmes films et voulait faire des films politiques. Donc voilà, il a fait ce qu'il a envie de faire. Mais effectivement, si on repart à la genèse de ce qui a marché, c'est que c'est à la fois de l'action, de l'émerveillement et une petite teinte d'humour. Et d'ailleurs, c'est pas de l'humour à gag. Alors ça, Lucas et Spielberg ont toujours été très mauvais là-dessus. Mais de l'humour lié par le côté décalé des personnages. Et c'était la force de C3PO et R2-D2 qui était toujours là au mauvais moment à faire la réflexion qui faisait rire le public. Mais c'est par le décalage qu'on nous fait rire. Et d'ailleurs, bébé Yoda fonctionne par son décalage dans cet univers, dans l'action.
Alors oui, alors de l'humour et aussi des phrases choc. Il y a toujours des punchlines. Alors, c'est plus que des punchlines. Ça devient quoi? J'allais dire des directives, c'est pas le mot, mais ça devient des sortes de proverbes. De...
Ah oui, le fameux.
Alors, là, je pense à telle est la voix.
Telle est la voix, oui.
Un siège parlé.
Mais oui, parce que en faisant ça, il ancre son univers, Favreau. C'est-à-dire qu'il crée. Dans l'univers de George Lucas, l'univers, quelque part, l'univers Jon Favreau. C'est-à-dire qu'il rajoute à quelque part les Mandaloriens, parce qu'en fait, nous, on connaissait Boba Fett, mais on ne connaissait rien d'autre, c'est ce qu'on appelle les Mandaloriens. Alors, ça a été développé dans un dessin animé Clone Wars avec la planète de Mangalore, mais là, quand il a fait cette série, il a essayé de donner de la richesse à cet univers des Mandaloriens. Donc, il leur crée des codes. Donc, effectivement... Telle est la voix. Alors, c'est un peu comme que la force soit avec toi. Telle est la voix devient maintenant, effectivement, on voit des running gangs maintenant sur les réseaux sociaux ou de fans qui disent telle est la voix sur n'importe quoi.
Et moi, je suis très contente parce qu'enfin, je comprends ces running gags. Vous ne pouvez pas imaginer comment on se sent exclu. Alors tout ça, ce décorum, cette créativité, elle se matérialise aussi par des poursuites et des combats qui sont impressionnants dans la série, avec les vaisseaux, les véhicules, ces décors. Il y a une planète, un décor. Et donc, aux effets spéciaux, est-ce que vous êtes en mesure de nous dévoiler peut-être un ou deux secrets sur les effets spéciaux qui ont été utilisés sur la série?
Alors déjà, je vais vous dire une chose. Là, la deuxième saison est très impressionnante. Alors la première, des fois, les épisodes étaient un peu courts, mais ça a été fait en urgence pour le lancement de Disney+. Donc, mais c'était déjà remarquable. La deuxième me bluffe. Mais la deuxième a été lancée en production avant le succès. Alors je me dis que la troisième, maintenant qu'il y a eu succès, la troisième va être... On va être au-delà du monumental. Une des grandes trouvailles, et c'est une révolution quelque part technologique de la série, et là aussi ça se ramène à Star Wars, c'est que Star Wars quelque part a toujours repoussé les limites de la technologie du cinéma. Et là, Favreau a mis au point un système qui est génialissime, c'est-à-dire qu'il y avait un système dans les années 80 qui s'appelait Rétrovision, qu'on voit dans les films comme Outland, où on projetait derrière...
Derrière les comédiens,
les
en
comédiens,
fait, ouais.
Oui, ça se faisait même dans les voitures. On projette une image et on vous filme. Alors, ça permet d'avoir de la lumière. Ça marchait beaucoup mieux, mais ça a été très peu utilisé parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Mais avec ce qu'il a développé en prévisualisation sur, je crois, le Livre de la Jungle, où c'est tout en synthèse, mais lui, il avait besoin pour réaliser d'avoir les décorums qui se mettent en place sur son écran. Ils ont poussé le système jusqu'au bout et ils ont utilisé les moteurs de jeux vidéo, notamment des PlayStation 4 et 5, qui permet d'avoir en temps réel les décors projetés derrière et en 3D. C'est-à-dire que les décors sont préfaits en ordinateur, mais quand vous bougez votre caméra, c'est-à-dire que moi je suis là, la caméra bouge, l'écran va bouger en fonction de la caméra et la focale aussi.
Et donc les acteurs ont joué dans les décors.
Oui, c'est que des fois, même quand c'est la cantina de Star Wars, il y a juste une table et une chaise, et derrière le mur, il est projeté. Mais le côté génial de ça, et notamment c'est souvent les raccords lumière du soleil ou des lunes qui, avec des fonds bleus, ne fonctionnent pas très bien et on voit les limites de la technologie. Là, tout d'un coup, quand vous projetez sur un énorme fond, et ils ont le plafond aussi, il y a des LED tout au plafond, ils projettent l'image 3D qui est nickel, qui est d'une perfection en 8K, je crois. Vous avez la lumière de soleil qui projette sur l'acteur et vous avez le raccord. Alors, notamment le Mandalorien, où c'est un casque qui reflète. À un moment, vous voyez même dans un plan qui est génial dans le deuxième épisode, vous voyez dans le cas le reflet du méchant qui saute par-dessus une barrière, ce qui est quand même incroyable. Et donc, ça permet donc, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, de filmer une série à moindre coût. Vous avez l'impression qu'ils ont tourné à Dubaï, dans le désert de je ne sais pas quoi, à Paris. Enfin, et non, c'est un studio à Los Angeles.
Ça me fait penser à une autre question, c'est-à-dire que vous parliez des jeux vidéo qui ont permis cette technologie-là. Moi, j'ai souvent pensé que tout cet univers de Star Wars était lié aussi à la pop culture qui passe par la bande dessinée et que les jeux vidéo aujourd'hui se sont beaucoup inspirés de cet univers de Star Wars. Vous me confirmez qu'il y a un lien totalement étroit entre ce qu'on peut faire aujourd'hui en jeux vidéo et The Mandalorian et les prochains Star Wars?
George Lucas... De toute façon, a fait les premiers jeux vidéo avec sa société qui s'appelait à l'époque Lucasfilm Computer Division et après Lucasfilm Games. Donc, il a été un des pionniers. Il disait, c'est la prochaine étape après le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, vous êtes passif. Les jeux vidéo, vous deviendrez actif de l'aventure. Il disait ça en 1980. Tout le monde rigolait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Star Wars, succès en 77. Et à partir de 77, il investit 3 millions de dollars par an en recherche et développement. C'est énorme. C'est la seule personne dans l'histoire de l'industrie cinéma à investir autant pour faire quoi ? Pour créer un scan qui permettent de mettre les images de la pellicule dans l'ordinateur et inversement, mettre l'image de l'ordinateur sur pellicule. Il aura fallu 3 ans avec recherche et développement. À partir de là, il a créé les 10 droïdes sonores et visuels, c'est-à-dire des tables de montage virtuelles pour le son et pour la vidéo. Une fois qu'il a eu son outil, il a vendu le brevet à vide.
Oui, c'est un truc fou. Enfin, c'est une entreprise folle.
Aujourd'hui, ouais. Si vous avez des IRM dans les hôpitaux, c'est grâce à Star Wars et cette recherche en développement qu'il a fait à l'époque. George, c'est pas juste un cinéaste, c'est un visionnaire comme était Walt Disney. C'est pour ça que j'étais ravi que Disney rachète Lucas, parce que quelque part, c'est la même chose. Ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent au cinéma, c'est ils ont changé tous les médiums pour arriver à leur rêve et ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, la technologie est intimement liée à Star Wars. Et donc, effectivement, il a fait les premiers jeux vidéo. Là aussi, Internet, il y a une anecdote qui racontait à Spielberg sur le tournage d'Indiana Jones et le Temple Maudit, donc en 83 en Thaïlande. Spielberg est en train de boire un coca avec une paille. Et George lui dit, ah ben, tu sais, un jour, tout va passer dans le tuyau. Et Spielberg lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, un jour, tous les films vont passer là-dedans. Spielberg ne comprenait pas. Et Lucas lui parlait d'Internet et les plateformes qui sont aujourd'hui.
Oui. Ouais.
83. Lucas a tout de suite compris le numérique. Et d'ailleurs, ça a été son cheval de bataille jusqu'au tournage numérique, la projection numérique. D'ailleurs, il restera dans l'histoire, je pense, pour ça avec Star Wars. Et donc, les jeux vidéo, bah oui, c'est aussi une initiation à la base de George. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fascinait chez le personnage à l'époque.
J'ai une question un petit peu personnelle, Patrice Giraud. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça ? Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là ?
Une fois de plus, quand je suis allé voir le film à l'époque, j'avais jamais entendu la musique. Je connaissais rien du tout. J'ai pas vu une image. Je suis rentré là-dedans et cette fanfare, on n'avait jamais entendu ça au cinéma. Williams faisait un peu des musiques, il faisait du Hitchcock. Il avait fait, j'avais vu un peu avant la Tour Infernale où il y avait quand même un beau générique de départ avec sa musique. Mais clairement, Lucas voulait fais-moi de la musique à la Corn Gold, comme dans les années 30, fais-moi du Robin des Bois. Et tout d'un coup, il a ramené dans le cinéma hollywoodien ce grand divertissement, ce gros gâteau au chocolat. Et ouais, cette musique est indissociable à Star Wars. Je me rappelle quand j'ai organisé les conventions Star Wars au Grand Rex, on avait fait une rétrospective en 2007 pour les 30 ans de Star Wars, des 6 films. Premier film qu'on projette, les 3000 fans ont commencé à chanter sur le générique de début. On n'en revenait pas. Là, ils ont chanté, 3000 personnes qui ont chanté le générique de début. Quoi. Et là aussi, je peux dire bravo à Jon Favreau. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se retirer.
On est d'accord.
De John Williams.
Mais musique est incroyable.
Oui,
mais quand
ça,
même,
c'est balèze parce que oui. Comment réussir à s'éloigner de ça ? Eh bien, ils ont pris un autre angle complètement différent. Pas du symphonique à l'ancienne. On va essayer de créer un autre univers. Une fois de plus, on prend un risque, ça fonctionne. Alors, le problème du risque, c'est que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah là, vous êtes au pilori, vous faites éclater. Mais ils ont pris le risque. Et ça a fonctionné. Et quand vous prenez risque et ça fonctionne, et ben là, vous récoltez tous les lauriers.
Depuis qu'on a débuté cet épisode, on sent votre passion, on sent votre analyse aussi. Vous avez une capacité aussi à avoir un regard critique sur certains aspects de l'œuvre. Voilà. Mais alors, je vous imagine en train d'arriver sur le tournage de Star Wars dont vous nous parliez au début de cet épisode en disant que vous avez eu la chance de faire de la figuration. Mais vous êtes retombé en enfance tout de suite quand on vous a proposé ça.
Oui et non.
Vous aviez trop peur.
Non. À l'époque, c'est une toute petite famille. Hein. Je crois que c'est trois personnes au licensing à l'époque. Et puis, j'étais leur média en France. C'était hyper important. Il n'y avait pas d'Internet. J'étais le représentant. Donc, on était vraiment une famille. On était hyper soudés. Non. Ce qui nous a vraiment désarçonné, c'est que moi, je suis arrivé sur le tournage. On m'a mis mon costume. Je ressemblais à Jean Marais dans Le Capitan. On se retrouve dans des palais italiens de Renaissance. Et on s'est dit, mais ils sont où les Stormtroopers ? Mais comme ça se passait 40 ans avant l'épisode 4, on ne s'attendait pas à cet univers. Donc, ça nous a un peu désarçonnés. Mais je tiens à dire que j'ai une chance incroyable. Alors, non seulement j'ai pu déjeuner à chaque fois avec George Lucas et je lui dis bravo parce qu'il pourrait dire à ses assistants, à son producteur, ses attachés de presse, vous êtes gentil, vous occupez des fans, là, je n'ai pas que ça à faire. À chaque fois, il a pris le temps de déjeuner avec moi et mes représentants d'autres pays. Je suis allé une fois, donc deux fois en Angleterre sur le tournage à Leavesden. Et puis, à chaque fois, je suis allé en Australie pour l'épisode 2 et 3. Au studio Fox là-bas. Mais à chaque fois, je pouvais rester une semaine derrière George Lucas à le regarder travailler. Alors moi qui suis cinéphile, Et j'ai eu mes cours de cinéma, je le voyais, travailler avec son directeur photo, avec son assistant réalisateur. Et ça, ça a été un cadeau. Je l'ai vu au quotidien, on a même rigolé avec lui. Enfin, ça a été une relation incroyable, une aventure incroyable pour moi.
Est-ce que vous avez gardé un objet de ce passage sur les plateaux de tournage de Star Wars?
Oui, on tournait la séquence finale de la planète Naboo dans l'épisode 1, où vous voyez toute la ville en liesse. Donc nous, pendant 4 jours, hein, on a même pris des coups de soleil, on nous a déplacés, on était sans figurants, on nous a déplacés de mètre carré en mètre carré pour faire la foule complète. Donc il y avait 2-3 caméras et il fallait tout le monde déplacer. Et donc on faisait des petits schémas comme ça. Alors à côté de nous, il y avait les enfants de Coppola, les enfants de Spielberg. C'est « Ah, vous voulez dans Star Wars ? Allez, envoie-moi tes gamins. » Et donc il a eu une foule à l'œil, le père Georges. Ah, c'est un bon producteur. Hein. Mais tout le monde était ravi. Ben, un jour, ils ont tourné la séquence où Qui-Gon Jinn décède et donc on brûle le Jedi. Et donc la cape, la robe de Qui-Gon Jinn, bah, qui est à moitié brûlé, ils l'ont jeté derrière dans le gazon. Donc on est tous récupéré un petit bout.
Un petit bout du tissu.
C'est rien du tout, c'est du fétichisme. Mais c'est un petit souvenir que je garde. Voilà.
Si je vous ai posé la question, c'est parce qu'en parlant d'objets, vous signez un livre absolument magnifique avec
Merci.
Arnaud Grunberg aux éditions Hachette. Star Wars, objet du mythe, la saga révélée par ces objets cultes. Tout est dans le titre. C'est bourré de références. Il y a plein d'infos étonnantes. Moi, je suis rentrée grâce à ce livre aussi dans l'univers de Star Wars. Vraiment,
c'était le but. Merci.
C'est vraiment mais formidable. Alors, je pourrais vous en citer 50 d'anecdotes que j'ai trouvées. Mais par exemple, au bout d'un moment, voilà, on voit la tête originale. Alors, je ne sais pas comment on prononce, de Vioslea,
vous n'avez pas trouvé le plus
j'ai
simple.
Je n'ai pas pris le plus simple, hein, évidemment. Non, mais vous ne me connaissez
mais côté,
pas, mais je
à
vous
côté,
dis.
À côté, c'est Snaggletooth avec sa dent. Alors,
c'est une sorte d'araignée
c'est
assez
vraiment
incroyable.
Mon associé et ami de grâce à Star Wars depuis 40 ans, Arnaud Grunberg, qui a fait cette collection. Alors, il a sauvegardé plein de choses. Alors, il a eu l'idée à ce livre de faire surtout, pour la première fois dans le Cinoche, de faire un livre d'art. Plutôt
et c'est le cas.
Donc,
ouais,
on a pris un grand photographe, Benjamin Tagmount, et on a fait 5 mois de shooting. C'est dingue, avec une équipe pour faire que les objets soient bien photographiés, bien éclairés.
Mais alors, vous avez raison, parce que les têtes en question qu'on voit, donc les têtes de créatures, on a l'impression qu'elles sont sorties du Quai Branly. Sincèrement,
que ce soit un catalogue d'expo, mais sans expo.
Voilà, mais avec des infos, parce que par exemple, j'apprends donc cette créature horrible, cette araignée. Vous écrivez, pour donner plus de vie à la créature, un ballon recouvert de latex s'était introduit dans sa bouche et le figurant portant la tête le gonflait, le dégonflait pour faire bouger cette langue difforme quand la créature s'exprime. Ça ne devait pas être de tout repos, hein, de tourner dans les Star Wars.
Et puis c'est. Alors ça, c'est, en plus, c'est vraiment un personnage créé par George. Il voulait un truc avec plein des yeux comme ça dans tous les sens et c'était le cas, c'est pas la plus belle.
Est-ce que vous voulez repartir avec l'autre livre que j'ai dans les mains, qui est le second livre, que je vous conseille de vraiment d'offrir à Noël pour tous les fans. Ça s'appelle « Tout l'art de Star Wars, The Mandalorian ». En fait, c'est vraiment un livre absolument magnifique sur la série The Mandalorian.
Oui, parce que pour une série, il y a un travail de recherche incroyable.
Alors, il y a tout sur les premiers croquis, notamment de bébé Yoda. Voilà, pour ceux qui sont fans, vous allez découvrir tout cet univers-là. Et je pense que c'est aussi une entrée parfaite pour entrer à la fois dans Mandalorian et dans la fois dans Star Wars.
Ça peut donner l'envie à de futurs artistes de dessiner. Et vous avez remarqué qu'à la fin de Mandalorian, d'ailleurs, le générique de fin...
C'est avec des bandes dessinées.
C'est avec les designs de pré-production de la série.
Alors, j'ai juste une dernière question là-dessus, parce que moi qui aime beaucoup la bande dessinée, pour le coup, j'ai cru voir, notamment dans les images des vaisseaux dans The Mandalorian, des images qui auraient pu être dans des bandes dessinées d'Anke Bilal. Est-ce que ça vous a frappé ou pas du tout? Ou c'est moi qui peux délirer aussi, hein,
De toute façon, Lucas ne s'en cache pas, hein, il a pioché dans tout l'univers, son univers... qu'il a lui-même nourri. Hein. Donc effectivement, on retrouve même du Valérian de Mézières dans Star Wars, mais on trouvait du Flash Gordon. Oui, il lisait Métal Hurlant, Lucas. Donc il y avait du Moebius, et il y a du Bilal, et il y a du Kaza, et donc tous les gens... Il y a du Druyet aussi dans Star Wars, hein, les Stormtroopers. Ça peut être inspiré aussi d'un dessin de Druyet qui existait. Bon... Il faut savoir que tous les gens qui ont travaillé après sur les BD aussi, sur les BD Star Wars, tout le monde va piocher partout. D'ailleurs, Joe Johnson, qui était le concept designer des 3 premiers Star Wars avec Macquarie, m'a dit, la première fois que j'ai vu George arriver chez ILM, il a fait des tirages A3 des pages de Metal Hurlant et il les a punaisées partout. Voilà. Parce que effectivement, Moebius, Druyet et Dionek ont créé Metal Hurlant, ont créé un mouvement qui pour moi est le départ de la pop culture. Voilà.
Et bien voilà, vous avez répondu à ma question. Donc, c'était
donc merci
pas
à
si...
eux de l'avoir fait.
Mais bien sûr. Et merci à vous. Merci infiniment, Patrice Giraud, pour faire partager votre passion avec autant d'enthousiasme.
Merci.
Et puis, comme le dirait Mando...
This is the way. Telle est la voie.
La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Sériland vous attendent. On va parler notamment des séries pour ados et elles sont nombreuses. Sériland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par une femme qui se rêvait princesse Léa et qui aujourd'hui va absolument adopter bébé Yoda, Adèle Ponticelli, réalisé par un mandalorien de la réalisation, Christophe Pierrot, et préparé en coulisses par les Jawa, Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barrault. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite et puis surtout, je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Vous savez que le groupe Facebook Sériland est là pour vous. Et puis, vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Étoilez-nous et nous serons les plus heureux de l'univers. Attention, dans Sériland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.